L'Ancien Testament, juste après les juges, c'est-à-dire avant, c'est le livre des juges, et après, c'est 1 Samuel. D'accord? Bon, j'ai pas appris ça, mais il y a bien longtemps, à l'école du dimanche, les gens, ils apprenaient des chants, les enfants, et c'était les livres bibliques depuis la Genèse jusqu'à la fin, avec des moyens mnémotechniques pour se rappeler ça. Peut-être ça rappelle certains souvenirs. Voilà, le livre de Ruth est très important en ce qui concerne le fil conducteur tout au long de la Bible, qui est la venue du Messie. Ah, j'aimerais bien vous entendre. Allez, hop, 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 on va faire un peu du dialogue ce matin. N'ayez pas peur, il n'y a pas de QCM à la fin du culte. Hein. On ne corrigera pas les devoirs. Alors, le premier nom propre dans ce livre, c'est Bethléem. D'accord? Et le dernier nom propre dans ce livre, c'est David. D'accord? Bethléem, David. En dehors du livre de Ruth, combien de fois parle-t-on de Ruth dans la Bible? Allez. Très très peu. Une seule fois où, dans Matthieu 1,5, Ruth parmi les ancêtres de Jésus-Christ. Hein. Donc on voit dans toute la généalogie, apparaît quatre femmes dans cette liste, Ruth et Rahab, qui sont entre parenthèses toutes les deux non-juives, et Tamar et Bathsheba, qui sont des juives. Donc ceci dans Matthieu 1,5. En introduction, et je vous rassure, on ne verra pas ce matin tous les thèmes, mais plusieurs thèmes sont abordés dans ce livre de Ruth. Il y a le thème de la famille, le choix des parents qui peut déterminer l'avenir des enfants, ou tout du moins impacter beaucoup l'avenir des enfants. La tentation de fuir devant des problèmes. Le problème des bons parents, tout particulièrement les relations entre belle-fille et belle-mère, hein, dans ce livre. On ne verra pas ça ce matin, mais il est question aussi de mort, d'enterrement, de mariage, de naissance, de travail, de chômage, de relations entre employeur et employé. Il est question aussi de déprime, de découragement et d'amertume. J'avais noté entre parenthèses, il y a un super bouquin, puisque vous avez une belle librairie ici à Uzès. C'est un livre de Maurice Decker dans les éditions Barnabas qui est de l'amertume à la grâce, que je vous conseille. Et puis un thème aussi qui est bien sûr bien important, très important, c'est le thème de la rédemption, le rédempteur et le rachat, hein, donc dans la société israélite. Mais ce matin, on va s'arrêter uniquement au chapitre 1, je vous rassure. Et dans ce chapitre 1, eh bien, on va étudier, on va regarder ou survoler trois thèmes. Le premier, c'est faire le bon choix, une question qui nous est tous posée, nos choix et leurs conséquences. Et puis on va, pour terminer, aborder le thème de la conversion. Jean-Claude, j'ai la voix un peu... Est-ce que je peux te demander de lire le chapitre 1 avec ta belle voix, peut-être derrière le micro, parce que moi je vais érailler ça, donc bien clair en plus, tu parles très bien, vas-y. Bien fort.
À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémi et ses deux fils Mahlon et Kilion. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Mahon et Guillon moururent à leur tour. Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, elle se mit en route avec ses deux belles filles pour rentrer au pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses deux belles filles, « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Noémie leur répondit « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais « J'ai de quoi espérer des enfants », je me donnerai un mari cette nuit même et j'aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien trop affligée. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. » Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit, « Regarde, ta belle-sœur est partie pour rejoindre son peuple, et ses dieux, fait comme elle, retourne chez les tiens. » Mais Ruth lui répondit, « N'insiste pas, pour que je te quitte et que je me détourne de ta route, partout où tu iras, j'irai, où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon Dieu et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister. Et elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. « Est-ce bien là, Noémie ?» demandèrent les femmes. Elle leur répondit, « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse. Appelez-moi Mara, l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie d'ici comblée, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongée dans l'affliction ?» C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab, et lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson de l'ange.
Merci Jean-Claude. Quelle histoire, hein, dans un concentré, un court chapitre, 22 versets. Une toute petite astuce, quand on lit des histoires comme ça, on a du mal un peu à imaginer les choses. J'ai un frère qui disait, c'est pas compliqué, faites marcher votre imagination, et vous lisez la Bible en cinémascope. Imaginez-vous un film, vous lisez, et vous imaginez le spectacle, le départ, l'arrivée, et ainsi de suite, tout ce qui peut se passer à cette personne. Alors, faire le bon choix. Au temps du gouvernement des juges, les événements relatés dans ce livre se passent pendant la période où les responsables politiques en Israël étaient des juges. Et si vous voulez savoir comment on vivait à l'époque des juges, il suffit de lire le dernier verset juste avant du livre des juges. Donc, vous prenez votre Bible et juste le dernier verset de Juges 21 dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. » En un mot, c'était le bazar. Personne gouvernait, voilà. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà en gros le contexte politique. Le peuple de Dieu était malheureusement éloigné donc de Dieu, d'un dirigeant. Il y avait des péchés, il y avait plein de fautes, bien évidemment. Trois éléments importants pour nous, enfants de Dieu. Concernant la voix de Dieu, à cette époque-là, le peuple d'Israël était insensible à la voix de Dieu. Ils étaient loin de la volonté de Dieu. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ils avaient perdu la vision de ce grand Dieu qui avait pourtant tant fait pour leurs ancêtres. Donc, ils étaient là, ils étaient bien, dans le pays promis. Ils oubliaient ce que Dieu avait fait pour eux et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Petite analogie, même grande analogie, avec notre époque, bien évidemment, hein, déchéance spirituelle et morale, idolâtrie, infidélité conjugale, corruption politique, immoralité, cruauté, cœur incrédule, rebelle et dur, et j'en passe, et des meilleurs. À l'époque de Ruth, nous verrons que là où le péché, un peu plus loin, a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. On voit toujours la main de l'Éternel qui est derrière son peuple. À notre époque ténébreuse aussi, là où il y a le péché abonde, la grâce peut surabonder si nous sommes consacrés à Dieu, à son œuvre, si nous sommes sensibles à sa voix, si nous sommes sensibles à sa volonté, et si nous gardons cette vision que nous devons avoir de notre Dieu. Et dans la deuxième phrase, du temps des juges, donc, il y eut une famine dans le pays. Dans la Bible, associé au mot famine, il y a l'association d'un jugement de la part de Dieu. Donc, éloignement, jugement divin, famine. Faisons connaissance avec une famille israélite. Élimélech, Naomi, dans ma version, Machlon, Kiljon, ils habitent à Bethléem. Il est le descendant de Juda, quatrième fils de Jacob. État des lieux, comme je l'ai déjà dit, ils sont dans la terre promise. Ils ont eu tant de bénédictions promises. Mais avec ces conditions qui arrivent, la famille, Élimélech et sa famille décident de partir, de fuir, bref, de se sauver. Un choix logique, c'est la famine, hein, je n'ai rien donné à manger, mais nous allons voir un peu plus loin, triste. Étant donné, donc un choix logique, étant donné la conjoncture actuelle, il fallait faire quelque chose. Après tout, Moab n'était pas trop loin, et puis on verra bien, ça ne sera pas pire que la situation qu'on vit aujourd'hui. Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui a quitté la terre promise en temps de famine, hein, un personnage important dans la parole de Dieu, qui commence par un A, A, Abraham, hein, bien sûr. Vous savez que en hébreu, la signification des noms que l'on donne aux personnes est très, très, très importante. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas peu ou pas d'écrits à l'époque, et donc la signification du nom voulait dire quelque chose. Et chaque fois qu'on prononçait le nom, il y avait souvent, c'était associé à ce que ça voulait dire. C'était une certaine manière de se rappeler ce que l'Éternel voulait dire à travers les noms. Mais malheureusement, on va le voir, ils avaient perdu ces bonnes habitudes. Alors par exemple, choix triste, et Élimélech, qu'est-ce que veut dire le nom Élimélech? Élimélech veut dire « Dieu est roi ». Bethléem veut dire « c'est la maison du pain ». L'ancien nom de Bethléem, c'est Ephrata, qui signifie « fécondité, fructueux ». Et être dans le pays de Juda signifie « louange à l'Éternel ». Ils avaient oublié toute la signification de ces mots. Ils ne pensaient plus à la signification des noms, car ils ne pensaient plus à Dieu. Il semble que dans le cœur de cet homme, Dieu n'était plus le roi. Il a pris une décision humaine de son propre chef, sans consulter l'Éternel. On reviendra le fait aussi dans nos vies, qu'est-ce que ça signifie de faire des choix en consultant l'Éternel. J'avais noté en Proverbe 14, 12, il est dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » En plus, un petit mot sur Moab et les Moabites. Moab, c'est le nom du premier enfant de la fille aînée de Lot, née suite à un inceste entre cette fille et son père Lot des siècles auparavant. C'est dans Genèse 19, vous pouvez retrouver ça. Pourquoi la fuite et le mauvais choix ? Dieu lui avait promis de marcher avec lui. Il lui pourvoirait à tous ses besoins. Je fais une toute petite parenthèse parce que vous connaissez ce personnage. À l'opposé de ce personnage d'Élimélec, dans ce livre de Ruth, il y a le fameux Boaz, d'accord, qui lui, exploitant agricole, n'est pas parti et qui a quand même été richement béni. Il savait même que pendant la sécheresse, Dieu le garderait. Question. Face aux épreuves, faut-il capituler ou faut-il combattre ? Marcher par la vue, c'est dire « c'est la vie ». Marcher par la foi, dire « on y va Seigneur, par la foi, j'avance ». Faire le bon choix. C'est une question, je pense, qui nous interpelle tous. Un peu plus loin, on va voir nos choix et leurs conséquences. Élimélec, quitter la terre promise et s'installer en territoire ennemi. Regardez rapidement les conséquences. Ses fils grandirent et se marièrent avec des femmes étrangères et idolâtres. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'était quand même le peuple élu, Israël. Vous voyez quand même les conséquences de ce choix. Il avait deux fils, hop, les deux fils se sont premièrement mariés avec des étrangères et idolâtres. Élimélec meurt. Ses deux fils aussi. Vous voyez le scénario. On va voir un petit peu plus loin dans quel état se trouvait Naomi et les choix qu'elle a faits. Rappelez-vous la lecture de notre frère. Au verset 7, elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle choisit de retourner au pays de Juda. C'est pas trop tard. Pourquoi a-t-elle choisi d'y retourner ? Je viens de lire ce verset 6. Parce que l'Éternel est intervenu auprès de son peuple. Elle avait entendu dire que la famine était terminée. Choix numéro 2, elle dit à ses deux belles-filles, rentrez chez vous. Je ne peux pas faire d'analogie avec ce qui se passe aujourd'hui, mais je crois bien qu'à l'époque, être une femme, les scénarios possibles, il n'y avait pas beaucoup de choix. C'était soit vous étiez marié, soit vous étiez prostitué. Il n'y avait que ces deux solutions. Ou vous étiez complètement rejeté. Au verset 8, se séparer de ses deux filles. Elle reconnaît leur gentillesse, leur fidélité. Au verset 9, les deux belles filles refusent de l'abandonner. Mais malgré tout, elle leur dit, au verset 11 et 14, « Si, partez, rentrez chez vous. » Encore des sanglots, mais on voit au verset 14, Ruth s'attacha à elle. Autre choix de Naomi, troisième choix, accepter d'être accompagnée de Ruth. On reverra un peu plus tard Donc c'est beau verset 15 à 18, hein, déclaration de conversion, on y reviendra plus loin. Naomi va rentrer en Juda et elle accepte de ramener sa belle-fille ancienne Moabite, pardon. Et on voit aussi au verset 19 à 22, elle se laisse envahir d'amertume et dire que c'est la faute de Dieu. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Et elle leur dit, « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Mais l'Éternel me ramène. Dix ans se sont écoulés. 10 ans. La parole nous dit que l'aspect de son visage n'était plus le même. Les femmes de Bethléem, elles n'étaient pas sûres. C'est bien elle. Elle a changé. C'est Naomi ou pas ? Je reviens à cette analogie et la signification des noms. Naomi signifie douceur, tendresse, gracieuse. Et désormais, elle se fait appeler Mara. Mara signifie amère, amertume. Pourquoi ? Parce que son cœur était rempli d'amertume. Et tout ça, c'est la faute de Dieu. Depuis 10 ans, son pays, à Naomi, a connu une crise économique. Famine, sécheresse. Naomi a déménagé 2 fois. Ses 2 fils se sont mariés. Son mari est décédé. Ses 2 fils sont décédés. Enfin, je ne sais pas si vous avez vécu des aventures ou des traumatismes pareils dans vos vies. En 10 ans, vous avez vu ce qu'a supporté Naomi sur le poids de ses épaules. Elle rentre pleine d'amertume. Je pense que j'ai fait une toute petite liste. Perte du conjoint. Perte de 2 enfants. Recevoir de nouveaux membres dans la famille, des Moabites. Connaître des problèmes financiers, déménager, changement d'activité sociale et religieuse. C'est un programme délicat qui a de quoi vous bousculer et vous mettre dans des états délicats. Un stress. Pourtant, le choix, tellement béni au départ, elle appartient au peuple de Dieu, elle habite la terre promise, héritière de tant de promesses, mariée et mère de 2 enfants, situation matérielle aisée, comblée, elle est devenue vide. Et même après ces 10 années de galère, elle est quand même bénie. De retour au pays parmi les siens, elle trouve un pied-à-terre pour se loger. Sa belle-fille lui a promis fidélité et loyauté. On voit qu'on a affaire à un Dieu vivant, un Dieu actif. Et cette dernière phrase du verset 22, « Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. » Vous voyez cette aventure de cette femme qu'elle a vécue. Elle est restée pourtant fidèle, elle est revenue, et Dieu l'a, on va le voir un peu plus loin, l'a accueillie à bras ouverts. On peut voir aussi le choix d'Elimelec et toutes ses conséquences. Quelque part, quand on fait des choix, bien sûr que je vais avoir des conséquences pour moi, mais tout ce qui est autour de moi, ma famille, la famille de Dieu. C'est pour ça que faire un choix et demander ou je dirais de joindre Dieu à la discussion, à la discussion que je vais avoir, est tellement important. Je m'adresse bien sûr à chaque enfant de Dieu. C'est sûr que je vais poser une question à Dieu en disant, allez, demain, Félie et sa famille, où est-ce qu'ils vont aller, et ainsi de suite. Le Seigneur ne va pas leur mettre un panneau demain matin devant leur porte et leur dire, c'est là que tu dois, là, tu vas faire comme ça. Mais le choix, quand ils sont accompagnés par la prière régulière des rendez-vous avec notre Seigneur, le Seigneur va nous mettre la paix ou pas dans le choix que je vais faire. Je pense que si Élimélec, je me permets de dire, avait passé du temps à prier, à réfléchir, à discuter avec sa femme, avec des gens autour de lui, près de Dieu, il n'aurait peut-être pas fait ce choix. Nos choix et leurs conséquences. Je vais relire les versets 15 à 18. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. » Le verset suivant était souvent lu lors des mariages, dans les promesses échangées. « Où tu iras, j'irai. » Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Après ces versets, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Ton Dieu est mon Dieu. C'est sûr que pour nous, enfants de Dieu, ces courts passages, c'est une merveilleuse analogie ou une annonciation de ce qui va se passer plus tard, après l'arrivée de Jésus-Christ, et dans l'événement extraordinaire qui s'est passé dans nos vies, quand le jour où on a donné notre vie au Seigneur, où nous nous sommes convertis. Une conversion, ce n'est pas un gros mot, hein. C'est « je me suis ». Converti. Aujourd'hui, des fois, ça nous écorche un peu la lèvre. On n'ose pas le dire. Frères et sœurs, on est tous rassemblés. Nous sommes une multitude. Nous sommes convertis. Alors, accepter Dieu. Qu'est-ce qu'une conversion implique pour Ruth? Et en quoi consiste pour nous une conversion aujourd'hui? Pour nous, accepter Dieu, c'est tout d'abord, et pour Ruth, renoncer à tout autre Dieu, idole, tout ce qui prend la première place dans nos vies. Accepter Dieu égale renoncer à ce qui prend la première place. Le Dieu des Moabites, entre guillemets, c'était des choses qui n'étaient pas terribles, qui se passaient là-bas. Il y avait des sacrifices humains, des choses qui étaient en horreur aux yeux de l'Éternel. Dieu des Israélites, l'Éternel, c'est le louer, c'est une chose qui est belle. Ce matin, notre frère nous a invités. La louange, c'est quelque chose d'assez particulier, mais sur lequel on a besoin de méditer et revenir. C'est quelque chose, c'est une respiration de l'âme. La louange et nos prières, c'est tellement important. J'aime à le dire assez souvent dans Apocalypse 5, vous savez, quand vous avez les chandeliers d'or avec toutes les prières des saints qui sont là. Tes prières, mes prières, vos prières, nos louanges, notre Dieu les entend, les écoute avec attention. C'est pas quand tu lui ouvres ton corps, même en silence, il écoute, il entend et il les garde dans ses coupes d'or parce que pour lui, ce sont des parfums extraordinaires. D'entendre ses enfants. Le louer, c'est quelque chose de beau. Et puis donc, aussi, bien évidemment, on doit renoncer à toute autre passion, tout ce qui peut prendre toute la place. En ce qui concerne Ruth, cela veut dire renoncer à son pays natal, renoncer à sa famille, renoncer à sa maison, à ses amis, à une ancienne religion, et à arriver dans un pays qu'elle ne connaissait absolument pas. Se convertir, c'est entrer dans une nouvelle relation avec Dieu. Ce mot « relation », il est tellement important. Je vous rappelle qu'à la chute, la relation a été coupée, interrompue. Le dialogue, il était impossible, sauf à se présenter devant Dieu avec un cœur pur et reconnaissant que je suis pécheur et que je me présente devant lui. Là, la relation, elle est rétablie. Nous sommes des êtres relationnels. Dieu nous a créés comme ça. C'est une des caractéristiques. On a été créés à l'image de Dieu. Et une des images de Dieu, c'est le fait qu'on soit des êtres relationnels et des êtres qui sont capables d'amour, d'aimer. Se convertir, c'est entrer dans une relation avec Dieu. Accepter Dieu et être accepté par Dieu. Appeler Dieu et être appelé par Dieu. Un engagement vis-à-vis de Dieu. Notre frère Félix a dit tout à l'heure qu'on ne le voit pas. C'est comme le Saint-Esprit, hein. On ne sait pas d'où il vient, c'est comme le vent, on ne sait pas où il va. Par contre, on voit ses effets. C'est ce que la parole de Dieu appelle les fruits dans une vie. Frères et sœurs, j'espère que vos vies sont remplies de fruits. Une petite analogie par rapport aux fruits. Dieu a créé une multitude d'arbres et de plantes qui donnent de multitudes et des différents fruits. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver chez l'un ou chez l'autre tel fruit ou tel fruit ou tel fruit. D'accord ? Pas de jaloux. Alors, deuxièmement, la conversion est un engagement envers le peuple de Dieu. Ruth, elle va aller là-bas, elle va s'engager auprès du peuple de Dieu. Ton peuple est mon peuple, elle dit au verset 16. Prête à être avec le peuple de Dieu. Prête à demeurer avec le peuple de Dieu. Prête à s'identifier avec le peuple de Dieu. Prête à mourir avec le peuple de Dieu. Bon, quand on se convertit, on ne pense pas tout de suite à notre mort, hein, à notre enterrement, le jour où on va passer. Voilà. C'est un engagement. C'est un engagement vis-à-vis de la famille de Dieu. La parole nous dit que Dieu nous donne une nouvelle famille, qui sont vous, mes frères, mes sœurs, vous êtes ma nouvelle famille. Et on doit prendre soin, on doit aimer, on est intégré, on fait partie de cette famille. Je vois notre frère là, qui a passé, je pense, une grande partie de sa vie en région parisienne, entre guillemets, qui se retrouve là aujourd'hui. Dieu a pourvu, lui a donné une autre famille, ici, dans cette église. Moi, de temps en temps, j'étais à 250 km d'ici, je me retrouve là. Dieu, à travers sa famille, à travers son peuple, me donne une autre famille. Je retrouve des choses que j'ai connues pendant 25 ans dans ma famille. Voilà. Vous pouvez aller n'importe où sur la terre, quand vous rencontrez un chrétien, vous tapez la porte, vous ouvrez la porte à l'accueil, vous savez que vous êtes dans la famille de Dieu. Et il faut prendre soin de sa famille. Alors, prête à être avec le peuple de Dieu, prête à demeurer avec lui, prête à s'identifier avec le peuple de Dieu, prête à s'identifier avec son Église, prête à s'identifier avec sa famille. Dans les témoignages, prête à mourir, donc, pour le peuple. Ce qu'il y a aussi de très remarquable, la nationalité de Ruth était contre elle, Moabite, ennemie du peuple de Dieu. Sa religion était contre elle, je l'ai évoqué précédemment, il pratiquait les sacrifices humains. Ses circonstances étaient contre elle, veuve, sans ressources, déracinement, veuve. Peut-être si on a, dans un autre message, on pourra évoquer ça, mais la situation d'une veuve, les droits de rachat, tout ça dans une famille, c'était compliqué. Sa famille était contre elle, donc parmi les Moabites. Frères et sœurs, pour conclure, dans le cœur de chacun et revenir à la conversion, quelqu'un a écrit « Il y a un trône et une croix ». Se convertir, c'est mettre Jésus sur le trône et soi-même sur la croix. Je répète, se convertir, c'est mettre Jésus sur le trône et soi-même sur la croix, ou la porter. On voit dans ce spot, dans ce livre de Ruth, cette conversion, on voit ô combien l'Éternel, il accomplit son plan. C'est sûr qu'il faut avoir un peu une vision, avoir étudié un peu la parole de Dieu globalement. Mais quand on, malgré toutes les situations, on voit que Dieu va accomplir son plan. Quand on regarde ce qu'il a fait avec Ruth et comment Naomi, ils sont revenus de leur pays et qu'ils sont revenus là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rappelez-vous, la dernière fois, on a évoqué la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, mais prenons ces versets comme des encouragements. Alors, conclusion. Faire le bon choix. Faire le bon choix, c'est pas sortir d'une réunion de prière et dire, voilà, c'est rouge, je vais repeindre ma maison en rouge. Faire le bon choix, c'est vivre une relation permanente dans son cœur avec le Seigneur et lui partager toutes choses. On sait très bien qu'à travers le Saint-Esprit, il va, si on le laisse agir, je dis bien si je le laisse agir, si je suis intime avec le Seigneur, il va influencer nos cœurs, il va changer. Est-ce que vos cœurs ont changé depuis que vous êtes convertis? J'ai entendu?
Oui.
Amen. Donc ne doutez pas de l'influence de l'Esprit-Saint, de l'intimité de Dieu dans votre vie. Si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu dans votre vie, vous serez intime avec quelque chose d'autre. Nos cœurs n'aiment pas le vide, le mien non plus. Faire le bon choix. Nos choix, rappelons-nous que nos choix peuvent avoir des conséquences. Et puis, rappelons-nous, repassons sur nos cœurs cette conversion, même si ça fait de longues années, rappelons-nous ce que ça signifie. Je ne sais pas si dans vos régions, beaucoup, moi j'ai un petit peu appris à faire du ski il y a de longues années en arrière, où nos skis, ils ne tournaient pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Et quand on faisait des pistes comme ça, là, en S, hop, hop, quand on ne savait pas trop faire, on arrivait au bout de la piste, il fallait faire une conversion. Punaise, c'était un exercice d'acrobatie invraisemblable, et ça voulait dire changer complètement de direction, quoi, 180 degrés. Ah. Alors, j'ai retrouvé un texte qui a été écrit, paru pendant le réveil au Pays de Galles en 1850, voilà, qui parle un petit peu de cette alliance que je fais avec Dieu de ma conversion. Alors, est-ce que ça va y aller sinon, ma
oui.
Voilà. Alors, ça a été écrit donc au Pays de Galles en 1859. Donc, je prends Dieu le Père comme mon Dieu. Je prends Dieu le Fils comme mon Sauveur. Je prends Dieu l'Esprit comme mon Sanctificateur, ça on n'y aime pas. Je prends la parole de Dieu comme ma ligne de conduite. Il y a les références chaque fois. Hein. Je prends le peuple de Dieu comme mon peuple. Vous en avez déjà entendu des frères et des sœurs qui disent « Moi, je n'ai pas besoin d'église, je me débrouille tout seul. » Je prends le peuple de Dieu comme mon peuple. Je m'abandonne entièrement entre les mains du Seigneur. Voilà, je le fais d'une façon formelle, sincère, libre et pour l'éternité. On va prier. Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, merci parce que si elle est une lampe à mes pieds, c'est que nous avons besoin de lumière au quotidien. Seigneur, ta parole est là pour nous éclairer, parce que nos cœurs, tu les connais. Et s'ils ne sont pas éclairés par ta parole, ils sont éclairés par autre chose. Seigneur, donne-nous d'être à l'écoute, d'être assoiffé d'intimité avec toi, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole, afin que ton Esprit Saint, duquel nous sommes scellés, Seigneur, puisse agir, parce que lui seul peut changer nos cœurs tortueux. Seigneur, je te demande encore une bénédiction particulière sur nous tous, Seigneur, sur tes enfants ce matin. Nous te prions pour ceux qui sont à l'étage, Seigneur, que tu puisses aussi préparer leur cœur. Bénis encore cette journée, et Seigneur, nous